How do you do? I'm Alfred Hitchcock.
I see humor in everything.
Last night, I dreamt I went to Mandalay again.
Suspense, shameless suspense.
Il s'était construit un personnage distant, de gros bourgeois gastronome et conservateur, rompu à l'exercice de l'humour britannique le plus classique. Il semblait entretenir avec son œuvre un rapport d'ingénieur amoureux de ses machines, soucieux de leur bon fonctionnement et de leur rendement. Aucun cinéaste n'eut droit dans ses 20 dernières années à autant d'exégèses et, fait notable, à autant d'exégèses venant d'autres cinéastes. Livres de Romer, Chabrol, Truffaut, articles d'Astruc, de Rivette, de Godard, et indirectement, par voie d'emprunt, d'hommage ou de pillage, dans une quantité impressionnante de films. Je crois qu'il n'y a pas plusieurs filtres de lecture, pas de double jeu, mais un seul et unique plaisir hitchcockien. Hitchcock s'est rendu compte dès l'enfance que son physique le mettait à l'écart. Il s'est alors retiré du monde et l'a regardé avec une sévérité inouïe. Une corpulence gênante, un ventre en avant. Et de son corps en déséquilibre, il a fait une signature. Catalogue hitchcockien numéro 1. Ce soir, les traces de l'enfance. Bruno Villien.
Il est né à Londres. Et d'abord, il est né dans un quartier populaire. Son père et son frère aîné s'occupaient d'une chaîne d'épicerie. Donc, ils distribuaient de l'épicerie dans tout Londres. Alors, ça voulait dire de la viande, des poissons, des œufs, des légumes et des fruits. Et il est important de voir, par exemple, qu'il était le dernier d'une famille de trois enfants et qu'il avait une assez grande différence d'âge avec son frère et sa sœur aînée. Et alors, il était petit, il raconte qu'il était dans un coin, qu'il s'amusait tout seul. Et donc, c'était déjà son imagination, au fond, qui était la chose la plus importante pour lui. D'autant plus que, pour des raisons que je ne sais pas, il était très gros, même petit. Et il a, par exemple, détruit lui-même les photos qu'il le montrait enfant. Alors, il faut croire que son image, à cette époque-là, ne lui plaissait pas beaucoup. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait réussi à transformer son image en une signature et à en faire ce qu'aucun autre cinéaste n'en a fait à ce point-là, c'est-à-dire vraiment une image de marque, où il jouait, au contraire, comme un acteur consommé, du fait qu'il était gros et laid.
Patricia Hitchcock.
C'était un père merveilleux, nous étions très proches. J'étais enfant unique et j'étais très proche et de mon père et de ma mère. Et mes filles, mes trois filles, étaient aussi très proches de lui. On parlait de tout, il me sortait le samedi, il m'amenait faire des courses, on déjeunait ensemble. Et même après mon mariage, je lui rendais visite dans les studios, et j'étais très très proche de lui, jusqu'à sa mort. Il m'a appris plusieurs choses. Premièrement, il faut absolument avoir le sens de l'humour dans tout ce que vous faites. Deuxièmement, il insistait, il pensait que quoi que je fasse, il fallait que je sois professionnel. C'est pour ça qu'il m'a envoyé à l'Académie royale d'art dramatique à Londres. Il insistait vraiment. Tout ce que je ferais, il fallait le faire bien, en étant professionnel. Et quelqu'un m'a demandé si je voulais devenir réalisateur, et j'ai dit non, parce qu'il fallait une formation totalement différente pour être metteur en scène. Je sais bien qu'il y a des acteurs qui essayent d'être metteurs en scène, mais...
Vous the matter, Barbara? Did you see it happen?
He looked at me. His hands were on her throat. And he was strangling me.
How do you mean?
He was looking at her first, then looked over at me. He went in sort of a trance. Oh, it was horrible. He thought he was murdering me. But why me, Anne? Why me? What did I have to do with it?
Do you know where Guy is?
He went out with that man.
Enfant, son père lui avait dit « Si tu n'es pas sage, tu iras en prison ». Et il se trouvait que son père connaissait le commissaire de police de ce petit quartier de Londres qui était très loin du centre de Londres, un quartier tout à fait populaire. Et alors il a dit à son fils, qui avait peut-être dans les 6 ou 7 ans, « Va porter cette lettre au commissaire ». Alors le petit garçon y est allé comme une commission. Et la lettre, c'était un mot qui disait apparemment « Enfermer Alfred pendant 5 minutes dans une cellule ». C'est ce que le commissaire a fait. Alors évidemment, il a eu très très peur parce qu'il n'a pas compris pourquoi il était puni. Il avait dû faire une bêtise, mais il avait oublié laquelle. Et alors, il en a conçu une sorte de terreur de la police. Et sa fille m'a raconté que la conséquence pratique de ce souvenir, c'est qu'il avait très très peur, en particulier des policiers de la route, qui voulaient pas, il savait conduire, mais il préférait que ce soit sa femme et sa fille ensuite qui conduisent. Et alors, évidemment, la terreur des policiers, ça, on la retrouve dans tous les films. Et alors, surtout qu'elle se marie avec une autre terreur, qui est celle des prêtres de la religion, puisqu'il était d'une famille catholique, ce qui est déjà une singularité en Angleterre, puisque c'est une minorité. Et donc, il était dans des écoles catholiques. Il était en particulier chez les jésuites. Et alors là, il en avait un très mauvais souvenir, parce qu'il était pensionnaire, il devait avoir une dizaine ou une douzaine d'années, et il ne mangeait pas assez. Alors ça, c'était évidemment pour lui une grande souffrance. Et alors, sa sœur lui avait envoyé un poisson froid, je crois. Et son père lui avait envoyé un poisson froid parce que le petit Hitchcock s'était plaint de ne pas manger assez. Et alors sa sœur, venant le voir quelque temps après, lui demande comment il avait trouvé le poisson. Et alors il s'est plaint en disant d'abord il était froid, donc il n'était pas bon. Et ensuite il continue toujours, les prêtres continuent à ne pas me donner assez à manger. Et alors là, ce qui est étonnant, c'est la réaction de son père, c'est qu'immédiatement son père l'a retiré du collège et l'a mis dans un autre. Donc cet amour de la nourriture, ça c'est sa fille qui me l'a dit aussi, ça venait vraiment de son père. C'est assez normal puisqu'il vendait de la nourriture. Et donc, c'est de lui que Hitchcock a hérité cette passion qu'il a poursuivie toute sa vie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que son père est mort quand Hitchcock avait 14 ans, et ça lui a donné, dans un sens, une certaine liberté. Et je crois qu'il a été plus lié, alors à partir de ce moment-là, à sa mère, dont il était plus proche, et dont il a hérité aussi son sens de l'humour. C'est d'elle que ça venait. Sa fille m'a dit textuellement une femme formidable, mais pas au vrai sens du mot, c'est-à-dire aussi un peu redoutable, une très grande et grosse dame, qui était extrêmement, qui savait très bien ce qu'elle voulait, mais qui avait aussi un humour un peu bizarre, un peu étrange, qui est l'humour même de Hitchcock.
Il a été obligé de travailler assez jeune.
Oui, donc à 14 ans, il a été retiré de chez les jésuites, mais de toute façon, ça valait mieux dans un sens, puisque c'était aussi quand même les jésuites qui lui avaient appris qui l'avaient enseigné grâce aux punitions corporelles, le suspense. Il l'a raconté, c'est les jésuites qui l'ont inventé. C'est-à-dire que quand les petits garçons avaient fait une bêtise quelconque au collège, on leur disait qu'ils allaient recevoir des coups de canne. C'était une canne en caoutchouc qu'on leur donnait des coups avec. Et alors, on ne leur disait pas, on leur disait au début de la journée qu'ils allaient être punis, mais on ne leur disait pas combien de coups de canne ils allaient recevoir, ni quand. Alors, dès que l'enfant savait ça, il commençait à trembler et à être pétrifié de peur parce qu'il ne savait pas si ça allait être beaucoup de coups de canne et il ne savait pas combien de temps il allait attendre pour les recevoir. Et en plus, ce qu'il savait, c'est qu'il serait donné devant tous les autres petits garçons qui, bien entendu, se moqueraient de lui impitoyablement. Alors, la combinaison de ces trois choses, ces trois terreurs avec le temps, donc puisqu'il ne savait pas quand la terreur allait se produire, c'est ça qui a donné naissance au suspense selon Hitchcock, puisque le suspense, c'est de faire peur aux gens, mais en les surprenant. Il a expliqué la différence de manière très simple, c'est que Si vous filmez des gens qui parlent et puis une bombe qui explose, vous choquez les spectateurs, mais ils n'ont pas eu peur avant, ils n'ont pas peur après. Tandis que si vous filmez deux personnes qui, comme nous en ce moment, sont en train de parler, que vous montrez, sans qu'ils le sachent, une bombe qui est placée sous leurs pieds, les spectateurs commencent à être terrorisés et le moindre mot qu'échangent les deux personnes devient extraordinairement important puisqu'on ne sait pas quand la bombe va exploser. Vous voyez, tout ça, c'est grâce aux jésuites.
Radioscopie Jacques Chancel, 18 janvier 1971.
As a child, only playing at it.
Tant qu'enfant, il jouait au prêtre.
They never caught me.
Mais ils ne l'ont jamais attrapé au piège.
Well, they start awfully young.
Et on commence très très tôt avec les enfants.
Il est croyant.
No, because I do not think my only quarrel with the church is that the rules of the church were the same kind of sin that you would commit that would be very bad. For example, you see, a mortal sin is not going to mass on Sunday.
Non, il dit qu'évidemment, il serait volontiers un croyant, mais il n'est pas d'accord avec les règles de l'Église qui, en principe, donnent beaucoup d'importance au péché. Et si vraiment on commettait ces péchés, on n'aurait plus aucune raison de croire ni en l'Église ni en Dieu.
Il est très pur, Monsieur Hitchcock.
Naturally, that's why I don't have to go to church.
Naturellement, c'est pourquoi il n'a pas besoin d'aller à l'Église.
But, you see, that is my only difficulty. But, you see, with the ecumenical changes in the Vatican, all my own theories are coming true.
Oui, maintenant, avec les changements qui se sont produits au Vatican et les nouveaux, les écuméniques, tout ce que M. Hitchcock prévoyait dans l'avenir de l'Église est en train de se réaliser.
For example, last week, they said you need not go to confession unless you wish.
Par exemple, la semaine dernière, ils ont déclaré qu'il était inutile d'aller à la confesse à moins que vraiment on le désire.
And I've always been against the confessional.
Et Monsieur Hitchcock a toujours été contre la confession.
Not against Catholics.
Non, pas contre les catholiques. Non, M. Hitchcock n'a rien contre les catholiques personnellement.
By the rules of the confession.
Mais ce qu'il veut dire par là, il est contre les règles de la confession.
Not to go was a sin.
Pourquoi aller se confesser d'un péché qui ensuite est absous?
Pourtant, lorsque je le regarde, Alfred Hitchcock, il est là en face de moi, j'ai l'impression qu'il a l'allure d'un bon curé de nos campagnes.
That's very possible.
Ça, c'est très possible.
But let me explain about the confession. Yeah. My objections. Yeah. A young man goes into the confession.
Oui, il va expliquer toujours ses objections vis-à-vis de la confession. Un jeune homme va se confesser.
Il dit à la prêtre, Father, I have murdered my mother.
Elle dit, il va se confesser au prêtre et lui dit, mon père, j'ai tué ma mère.
Priest says, how many times my son?
Le prêtre lui demande, combien de fois mon fils?
But it shows you how ridiculous that question and answer was in the confession.
Mais cette histoire qu'il vient nous raconter nous prouve à quel point la confession est une chose ridicule.
I was
Quand j'étais petite, quand je grandissais, il m'amenait à l'église tous les dimanches, chaque dimanche. Et quand j'ai été en mesure de conduire, c'est moi qui conduisais, c'est moi qui l'amenais à l'église.
C'était
la nuit de Noël.
De Noël. There are three wise kings.
Il y a les trois rois mages.
Walking up and down, up and down.
Qui arpentent la chambre sans arrêt.
Wondering what name to give to the newborn child.
Se demandant quel nom ils vont donner à ce nouveau-né.
And one of them accidentally steps on a garden rake, you know.
Yes, yes. Et un tout à fait accidentellement marche sur un râteau.
And the handle comes up and smacks him.
Et le manche.
Between the eyes.
Et le manche du râteau évidemment se redresse et le frappe juste entre les deux yeux.
And he goes like that. And he says, "Jesus Christ."
Et à ce moment, il s'écrie Jésus-Christ.
The other two say, "That's it. That's what we'll call him."
Et les deux ont dit, "Ça y est, on l'a trouvé. C'est la façon dont on va l'appeler."
Alfred Hitchcock, qu'est-ce qui vous arrive quand même d'aller de temps en temps à la mer?
No, only by accident, because I have an elderly cousin who is a devout Catholic, and I don't do it in a sense of being a hypocrite. But I always drive. I never drive a car. I don't like it. But I always drive her to mass.
Il dit que non, personnellement, il n'y va jamais. Et la seule fois où il y va, c'est parce qu'il a une cousine qui est très très catholique. Et il n'y va pas pour faire montre d'hypocrisie, mais il la conduit lui-même à l'église, alors qu'il déteste conduire à la voiture. Mais il la conduit lui-même à la messe.
And she probably thinks I always go to mass every Sunday.
Et certainement, elle croit au fond de son cœur que M. Hitchcock va à la messe tous les dimanches.
And I never say anything about it. I let her think that.
Et lui, il ne la contredit pas, et il ne dit pas qu'il n'y va pas, mais il ne lui dit pas non plus qu'il y va.
François Truffaut vient de publier l'édition définitive de ses entretiens avec Hitchcock, un livre extraordinaire, palpitant de suspense et plein d'émotions. Le lecteur assiste à une sorte de jeu du chat et de la souris en lisant le dialogue. 50 heures d'interview, un questionnaire serré, et on sent progressivement que Hitchcock se livre, se dénude et apparaît même comme un être fragile, François Truffaut.
C'est ce qui m'avait attiré chez Hitchcock, c'est que contrairement aux journaux qui parlaient d'un homme froid, d'un pur technicien, moi je voyais l'émotivité, même dans un film, on citait tout à l'heure ce film Notorious, et il y avait cette scène qui, même j'étais un gamin, j'étais très ému par cette scène quand Claude Rains, donc le méchant nazi, ayant vu que sa femme Ingrid Bergman a remis une clé dans le trousseau de clés au milieu de la nuit, se lève, descend un étage, va frapper à la porte de la chambre de sa mère et dit « Maman, j'ai épousé une espionne américaine ». Moi, j'adorais ça parce que je trouvais que c'était, en fait, ça appartenait bien au monde de l'enfance. C'était pas le monde des adultes, c'était le monde de la culpabilité, le monde de la peur, le monde de l'émotivité. Et c'est ce que je voyais en Hitchcock. Je voyais un émotif, je voyais un homme qui avait peur. Et parce qu'il avait peur, il savait mieux que les autres faire peur. Et enfin, rendre compte de cette peur, la raconter. Il s'arrangeait pour être toujours en règle et pour tout prévoir. Et je pense qu'il avait l'inattendu en horreur.
Je crois que c'est intéressant. Vous connaissez la situation mieux que nous. Qu'est-ce qui a bien pu inspirer à Alex Sébastien cette idée de mariage?
Oh, c'est qu'il croit m'aimer.
Et aussi que vous l'aimez.
Oui, c'est bien ce qu'il croit.
Messieurs, c'est un résultat remarquable.
Alors, vous êtes d'accord?
Eh bien, oui,
Je crois que oui. Ce mariage est parfait en tout point. Pour nous.
Il y a un ennui, cela peut retarder nos projets.
De quelle façon?
Eh bien, monsieur Sébastien a l'air particulièrement romantique, ai-je raison?
Oui.
Alors il va probablement emmener sa femme en voyage pendant quelques mois. D'où un retard considérable.
Evelyne a raison. Nous pouvons compter sur mademoiselle Huberman. Elle ne restera pas longtemps loin de Rio.
Oui, je crois que je m'arrangerai.
Tout me paraît parfaitement organisé. Dans ces conditions, je n'ai plus rien à faire à Rio, capitaine Prescott.
Il a fait une école d'ingénieur, mais enfin pas une école de on appelle ça un lycée technique aujourd'hui. Donc il a fait un peu de tout, et ça a été très important par la suite, puisque il suivait pour son propre goût, il suivait des cours de dessin. Et qui a, alors on emmenait très souvent les élèves en extérieur, dans une gare par exemple, il fallait faire des croquis, ce qui explique qu'après que le talent qu'il avait pour les croquis s'est tout de suite développé. Et puis il apprenait toutes sortes de techniques variées qui lui ont resservi par la suite. Et un de ses acteurs, tout à fait à la fin de sa vie, m'a raconté qu'il avait donné une montre ancienne comme cadeau à Hitchcock. Hitchcock lui a dit, bah, vous voyez le mécanisme de cette montre, je connais par cœur, je serais capable de le démonter et de le refaire. Il connaissait la technique de l'intérieur, ce qui lui était après d'une aide extraordinaire pour tourner ses films. Tout en suivant ses cours de son école technique, il allait beaucoup au théâtre. Alors, il y avait été... D'abord, ses parents l'avaient un peu emmené, puis après la mort de son père, il est allé avec sa mère, et surtout, il y allait tout seul. Et alors, on imagine ce gros petit adolescent qui se débrouillait pour aller les soirs de première, en payant sa place, bien entendu, et qui voyait donc ces spectacles extrêmement brillants, parce que le Londres des années 20, ça a été, comme c'est toujours aujourd'hui d'ailleurs, une période extrêmement riche et faste pour le théâtre. Alors il a vu beaucoup d'actrices et d'acteurs aussi d'ailleurs, mais surtout des actrices qu'il a utilisées ensuite, jusque dans son dernier film, il y a des actrices qu'il avait connues à l'époque de ses 18 ans. Alors donc il était très intéressé par le théâtre, et c'est un intérêt qu'il a gardé toute sa vie. Et alors par le cinéma il était intéressé, mais il a vu beaucoup de films qui l'ont beaucoup marqué, les films allemands, les films de Griffith, les comiques comme Buster Keaton, mais en même temps il était intéressé par le côté technique des choses. Et alors, il achetait des magazines, mais pas du tout des fans magazines qui racontent des ragots sur la vie des acteurs. Non, lui, ce qu'il achetait, c'était des revues professionnelles, pour les professionnels du cinéma. Et c'était ça qu'il voulait faire. Et alors, il a sauté sur l'occasion quand elle s'est présentée. Il a su qu'il y avait des firmes américaines qui étaient installées à Londres et qui faisaient donc travailler essentiellement les Américains, des metteurs en scène et des stars américaines qui tournaient à Londres parce que c'était beaucoup moins cher. Mais à ce moment-là, il a vu une annonce disant qu'une de ces sociétés recherchait quelqu'un pour faire les intertitres, puisqu'il s'agissait de films muets. Et donc, dans les films muets, les dialogues étaient résumés par des intertitres qu'on pouvait lire entre les images. Alors, il s'est présenté dans cette firme. Il en avait préparé toute une série de films qu'il avait vus. Et il a été engagé. C'est comme ça qu'il a débuté.
Il n'avait aucune envie et aucune idée de devenir un metteur en scène.
My beginning in films was rather unusual.
Il a commencé dans le film d'une façon assez inhabituelle.
I was a designer of advertisements.
Il faisait des dessins de publicité.
Then I went over to design titles.
Il a décidé à faire le dessin des sous-titres de films.
In the days of the silent film.
À l'époque des films muets.
And one had to have little ideas for this, because today, when I look back, they seem rather ridiculous.
Oui, maintenant, quand il les regarde de nouveau, il les trouve un peu ridicules, mais à cette époque, ça apportait une certaine nouveauté. Thank you.
une chose curieuse autour de 1925, enfin avec des gens comme Murnau, comme Fritz Lang, le cinéma muet arrivait à une très très grande perfection. Il arrivait à raconter des histoires poignantes, prenantes. Le jeu pour le metteur en scène sophistiqué consistait à avoir le moins d'intertitres possible, c'est-à-dire à interrompre le moins possible son film. Et on cite l'exemple souvent du film de Murnau, Le dernier des hommes, avec Emile Jannings, qui joue le portier d'un grand hôtel, dans lequel il n'y a pas un seul intertitre. Toute l'histoire se comprend comme ça, et le film est muet. Et puis, le parlant est arrivé, bon, qui était quand même un perfectionnement, enfin, dans le sens du réalisme. On veut toujours que les perfectionnements soient dans le sens du réalisme. Mais enfin, ils sont pas toujours, malheureusement, dans le sens de la poésie ou de... Et quelquefois, ils font regresser un peu. Et ici, on peut dire que enfin, c'est ce que nous disons dans le livre, le parlant est arrivé un peu trop tôt. Parce qu'il est arrivé à un moment où les gens faisaient d'énormes progrès. Et il aurait fallu qu'un plus grand nombre de cinéastes puissent encore faire ces progrès du muet. Et, le parlant aurait dû arriver en 35 au lieu de 1930. Ce qui est arrivé, c'est que à partir du parlant, on a engagé des metteurs en scène qui venaient de Broadway, qui étaient des metteurs en scène de théâtre, qui n'avaient pas de science du tout cinématographique et qui sont simplement contentés de filmer les gens à plat. Et la mise en scène, enfin la mise en scène pure, l'écriture cinématographique a regressé un peu, voilà. Sauf dans le cas de quelques metteurs en scène très forts qui avaient commencé dans le muet et qui ont continué dans le parlant, comme Chaplin, Lubitsch, Hawks, Ford, Hitchcock. Et ces gens qui avaient fait du muet et qui avaient travaillé dans des conditions extraordinaires d'improvisation, de débrouillardise, qui étaient partis quelquefois le matin avec 12 personnes sans savoir ce qu'ils allaient faire et puis qui improvisaient quelque chose sur une plage et le soir ils revenaient quand même avec un film de deux bobines qui faisait rire ou qui... Et bien ces gens-là savaient tout faire et ils ont appliqué après leur débrouillardise et leur esprit d'invention dans le cinéma parlant, ce qui a donné des films très intéressants.
Il a procédé d'une manière très habile et en même temps très logique, c'est-à-dire qu'il est passé par tous les métiers du cinéma, tout en étant depuis le début beaucoup plus porté sur le côté visuel. Il avait, comme je vous le dis, fait du dessin, et en fait, ses intertitres, c'était aussi des dessins. Par exemple, il y en a un qui est amusant, il dit, c'était très banal les intertitres, alors le texte c'était « John brûlait la chandelle par les deux bouts », et alors on voit une chandelle qui brûle par les deux bouts, c'est un dessin. Qui était en plus du texte. Je suppose que c'était fait aussi pour les gens pas très cultivés qui allaient au cinéma, puisque comme à cette époque-là, le cinéma était surtout considéré comme une distraction populaire méprisée par les intellectuels, il fallait les aider, ceux qui réussissaient pas à lire assez vite, avec un dessin. Et alors, ensuite, il a fait tous les métiers, et par exemple, une chose qu'on ne sait pas assez, à mon avis, c'est qu'il a été décorateur et costumier. Et donc, il a dessiné des décors pour des films qu'il n'a pas mis en scène, qui n'étaient pas de lui. Et alors, c'est à cette occasion, d'ailleurs, qu'il a fait son premier voyage à Paris, qui est assez amusant parce qu'il fallait qu'il dessine le décor du Moulin Rouge. Alors il est vite venu à Paris et il est allé à la messe d'abord à la Madeleine. Ensuite, il est allé dessiner le Moulin Rouge et hop, il est reparti. Et alors, il a fait donc tous les métiers. Il a été aussi scénariste, dialoguiste, adaptateur et il a participé à beaucoup, beaucoup de films. Et je crois comme ça, il a une formation sur le tas qui lui a permis de connaître un tournage de film de l'intérieur et ensuite d'être compétent dans tous les domaines les plus techniques.
Alors, il raconte aussi que ses tournages étaient quelquefois mouvementés. Il n'était pas encore connu, donc il ne disposait pas de beaucoup d'argent. Et notamment, un des tournages les plus mouvementés dont il se souvenait, je crois que c'est Pleasure Garden.
Oui, c'est son premier film en tant que metteur en scène. Parce que là, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il a d'abord commencé à faire un film à la suite d'une dispute ou d'une maladie avec le metteur en scène, comme metteur en scène. Et puis, justement, le film était inachevé parce qu'il n'y avait plus d'argent. Alors, c'était un faux départ. Et il s'est rattrapé en faisant ce premier film qui s'appelle donc Le Jardin du Plaisir. et qui est un film assez complexe à tourner puisqu'il se passe, il commence à Londres, il se poursuit en Italie au bord du lac de Côme et il se termine dans les colonies anglaises. Alors il n'a pas été quand même jusque dans les colonies anglaises qui étaient très loin à l'époque. Mais il a été par contre en Italie, d'abord faire des repérages, et alors ça a été très très mouvementé, et ensuite tourner le film, et ce qui vaut d'ailleurs des très belles scènes en extérieur, où on reconnaît très bien les décors du lac de Côme.
Alors comment peut-on juger, à votre avis maintenant, tous ces films muets d'Alfred Hitchcock, par rapport au reste de la production à la même période ?
Ce qui est très étonnant quand on les voit tous, c'est que justement il y a une très très grande cohérence et une très grande logique dans toute son œuvre. Et déjà dans ce premier film, qui est une sorte de comédie dramatique, il y a déjà un meurtre par noyade, il y a déjà une histoire de triangle amoureux, c'est-à-dire deux femmes et deux hommes, mais en fait ça se transforme plusieurs fois en triangle. Il y a déjà une forme d'humour qui est tout à fait typique de Hitchcock. Enfin bref, on voit tout à la naissance, si vous voulez. Et ça, c'est très passionnant. Mais alors évidemment, lui, il dit que son premier vrai film hitchcockien, c'est ce film qui s'appelle The Lodger, c'est-à-dire Le Locataire, et qui est une sorte d'adaptation de l'histoire de Jack the Ripper, qui veut dire Jacques l'Éventreur, et qu'il a tourné alors là avec une vedette très célèbre de la scène anglaise qui s'appelait Ivor Novello. C'était un jeune premier qui jouait toujours les jeunes premiers de 18 ans, même quand il en avait 35, et qui était très très apprécié du public de music hall, parce qu'il était aussi chanteur. Et alors là, il était le héros. Et alors, pour la première fois, Hitchcock s'est heurté à un problème qu'il va rencontrer souvent par la suite, c'est-à-dire que les producteurs lui ont dit « il n'est absolument pas question que ce jeune premier, Ivor Novello, qui est adoré des foules, soit un assassin et que l'histoire finisse mal ». Alors évidemment, c'était très fâcheux parce que c'était justement le sujet du film. Le film étant d'une famille d'anglais moyens, où la fille, comme par hasard, est fiancée à un policeman, qui a un locataire tellement bizarre qu'elle croit que c'est l'assassin qui étrangle les femmes blondes et qui terrorise Londres. Et puis alors, à la suite de nombreuses péripéties, finalement, il y a une happy end et c'est pas lui. En effet, c'est pas Ivor Novello l'assassin. Mais quand même, Hitchcock est allé aussi loin qu'il a pu, tout en sacrifiant cette fin. Et il a montré à Ivor Novello comme une sorte de Christ bafoué. Et alors on le voit absolument crucifié, on voit l'ombre d'une croix sur son visage. Enfin, il a fait beaucoup de recherches formelles qui sont aujourd'hui encore très intéressantes parce que ça représente, pour l'époque, c'était vraiment l'extrême avant-garde. Et ça a été considéré comme, ce film a été considéré comme un mélange d'un thème tout à fait populaire et intéressant et commercial avec des recherches plastique, esthétique d'avant-garde, qui était à ce moment-là plutôt réservé aux Allemands, à l'expressionnisme. Comme Hitchcock avait beaucoup aimé les films de Lang en particulier, il s'en est inspiré, et on retrouve des recherches que l'on voit également dans les films de Lang, et qui paraissent aujourd'hui encore, même 50 ans après, tout à fait modernes. Et alors, par exemple, il voulait montrer l'angoisse qui s'emparait de cette famille, à l'idée que ce locataire restait seul dans sa chambre à faire les 100 pas. Alors il a une idée extrêmement ingénieuse, il a fait construire dans son décor un plafond en transparent, et donc on voit le locataire qui fait les 100 pas, c'est filmé du point de vue de la famille qui est donc en dessous, et il y a le lustre qui se balance à cause des tremblements des pas du locataire, et on voit tout ça en un seul plan. Alors à l'époque ça fait une sensation, et on a tout de suite dit que c'était un jeune génie.
À partir de quand, justement, Alfred Hitchcock a-t-il été reconnu à la fois par les critiques et par le public ? Est-ce que c'était déjà à sa période de film muet ?
Ah oui, presque dès le début. On l'appelait le Boy Wonder, c'est-à-dire un génie en herbe. C'est son deuxième film, dès le début.
Et c'est sur la musique de Vertigo que s'achève le Alfred Hitchcock numéro 1. Bruno Villien, Alfred Hitchcock, édition Colonna. Patricia Hitchcock, rencontrée à Avoriaz.
François Truffaut, Alfred Hitchcock, édition définitive, Ramsey. Demain, perversion, obsession, catalogue Hitchcock, numéro 2.